Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Nice Côte d'Azur. On est ensemble jusqu'à 19h30 pour Copéglon, votre magazine 100% OGC Nice sur nos antennes. Pas de miracle pour le gym face au Paris Saint-Germain. Défaite 4-0 à domicile avec le pénalty du premier but extrêmement contesté. On reviendra évidemment sur ce tournant de la rencontre. Il n'y a pas eu match ensuite en seconde mi-temps. Au classement, attention, puisque la JOCR revient à 5 longueurs et creuse l'écart au niveau de la différence de but. Ce sera donc une course à 3 avec Le Havre pour éviter ce barrage Ligue 1, Ligue 2, le Paris FC ayant battu les Normands dans la confrontation directe hier. Pour nous parler de tout ça dans Copéglon ce soir, il y a notre fidèle supporter Nico Nanino est avec nous ce soir. Bonsoir Nico.
Bonsoir Samuel, bonsoir à tous. Encore une défaite, mais je suis quand même très content de partager le plateau avec vous et notamment quelqu'un qui m'a fait rêver lors des plus belles années du club, donc je suis très heureux.
Un petit peu de suspense, la caméra, donc les supporters fidèles de l'OGC seront reconnus. Avant de le présenter, Arthur Franc est avec nous également, journaliste actu.fr. Bonsoir Arthur.
Bonsoir tout le monde, ravi d'être là aussi également.
Très heureux aussi de vous compter parmi nous ce soir. Et puis notre invité d'honneur, c'est Vincent Cosillo. 102 matchs avec le gym entre 2014 et janvier 2018. Bonsoir Vincent pour cette première dans Copéglon.
Ouais, bonsoir. Je te rejoins parce que je suis très content d'être parmi vous ce soir.
Phase de réathlétisation, c'est ça avec les jeunes du centre pour vous,
c'est
Vincent?
Ça, je fais mon retour terrain par rapport à ma blessure, ma rupture du tendon d'Achille que j'ai eu en juillet dernier avec l'UNFP. Et je m'entraîne en ce moment avec les jeunes du centre de formation. Donc je remercie encore une fois l'OGC Nice de me donner cette opportunité-là pour me remettre sur pied.
Vous savez que vous pouvez dépanner actuellement au milieu de terrain, c'est une possibilité. Vous avez 30 ans d'ailleurs, non, Vincent.
Je suis conscient aussi de mes capacités, surtout physiques en ce moment. Et je vous assure qu'il y a de quoi aussi au club.
En tout cas, on est très heureux d'avoir Vincent. Je le redis au sommaire de cette émission. D'abord, il y a le débrief entre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain. On va revenir sur la rencontre de samedi soir en première partie. Et puis la deuxième, consacrée d'une part au top flop et puis au focus de ce soir. Retour sur les déclarations au milieu de semaine de Florian Maurice à nos confrères de l'équipe. Le directeur sportif de l'OGC Nice évoque ses responsabilités, tente de défendre son bilan et explique le choix Kevin Carlos. On vous lira quelques passages d'ailleurs de l'interview. La question du focus, elle est assez simple. Est-il le fautif numéro 1 de la saison cauchemar du gym? Mes invités en débattront dans ce 30e épisode de la 5e saison de Copéglon. C'est parti. On va prendre la direction tout de suite de l'Alliance Riviera pour voir ce qui s'est passé entre Nice et Paris. On commence directement par le tournant du match. La frappe de Désiré Doué est hors cadre, mais vient toucher la main de Morgan Sanson juste avant la mi-temps. Monsieur Delajoux est rappelé à la VAR et va accorder le point de pénalty aux Parisiens. Ouverture du score donc sur pénalty par Nuno Mendes. Ce sera Désiré Doué qui va doubler la mise à la 49e. Youssouf laisse ensuite ses partenaires à 10 contre 11 pour sa première titularisation depuis avril 2025. La messe semble dite. Dro Fernandez triple l'addition avant que Warren Zahir Emery ne vienne coller un deuxième 4-0 d'affilée à l'OGC Nice dans son stade après Rennes il y a deux semaines. Le gym qui n'y arrive toujours pas à l'Alliance en Ligue 1. La dernière victoire remonte au 29 octobre dernier. C'était face à Lille. On va revenir, messieurs, si vous le voulez bien, sur le point de bascule de la rencontre à 5 minutes de la pause. La frappe de Désiré Doué déviée par la main de Morgan Sanson dans la surface. Y avait-il tous les éléments pour siffler pénalty ou pas sur cette action? On commence par vous, Nico.
Bah, je pense que c'est la règle, malheureusement. Après, il y a aussi l'interprétation du jeu de la part de l'arbitre qui, à mon sens, a appliqué bêtement la règle. C'est dommage parce qu'encore une fois, il y a une décision contraire qui peut être prise dans les semaines à venir. Et donc, on va se dire, c'est frustrant, mais la règle, elle est faite comme ça. Moi, je la trouve absurde parce qu'elle va à l'encontre même de ce qu'est le football. Je vois pas comment il peut défendre autrement Morgan Sanson. La frappe n'est pas cadrée. Enfin, ça fait beaucoup d'éléments qui sont frustrants et ça, c'est le tournant du match parce qu'on était quand même plutôt bien en place, même si on avait subi. Donc c'est sûr que c'est rageant.
C'est un pénalty, vous qualifieriez Arthur de très sévère sur cette action.
Je suis d'accord avec Nico, c'est assez logique finalement au vu de la position du bras, mais c'est contre-naturel finalement parce que c'est plus simple. Enfin, en fait, le bras il est là pour équilibrer aussi l'appui de Morgan Sanson. C'est plus contre-naturel de mettre la main derrière que de le laisser traîner entre guillemets le bras. Forcément, ça coûte cher à l'OGC Nice, mais encore une fois, c'est surtout de l'incompréhension par rapport aux décisions qu'on voit sur les différents terrains de Ligue 1, ne serait-ce qu'hier, le match à Lyon, le match à Marseille, sur les mains, sur les interprétations des arbitres, c'est à chaque fois différent et c'est très difficile d'avoir une réponse claire finalement chaque lundi.
Absolument. Vincent Vauquier, notre caution terrain ce soir, on peut l'appeler comme ça. À quel moment on peut siffler pénalty sur des mains dans la surface? Parce qu'on a l'impression que, comme ça, on peut viser la main en fait directement et il y aura pénalty.
Bah, pour plein d'autres situations, il peut y avoir pénalty, mais pas sur une situation pareille. Comme on l'a dit, il est à bout portant, le tir est non cadré, et même le ballon effleure le bras, il n'est même pas énormément dévié, et potentiellement il le rapproche plus, même plus du but qu'autre chose. Et puis moi, ce qui me gêne, c'est vraiment cette intervention du VAR, parce qu'on parle souvent de... C'est une erreur manifeste. Pour moi, ce n'est pas une erreur manifeste de ne pas siffler pénalty, puisqu'on a besoin ensuite de 5, 6, 7 ralentis pour déterminer si le ballon a été dévié, si le ballon a été effleuré. Et puis surtout dans l'incohérence entre les décisions, l'OGC Nice en fait toujours finalement les frais, parce que je me souviens d'une main de Thilo Kehrer dans le derby à l'Allianz, qui est une main aussi que moi j'aurais pas sifflé, mais si on siffle celle-là, il y en a un paquet qu'on...
Et la main de Dante aussi face à Brest la semaine d'avant aussi.
Juste avant, c'est toujours le même sujet, le même débat. Et franchement, moi je trouve qu'il y a quand même à revoir les règlements, parce que c'est pas logique. Et puis on arrive avec des enjeux tellement importants que ça fait basculer la vie du match.
À quel moment on peut siffler des pénaltys sur des mains? On a posé la question à Dante qui nous a répondu en zone mixte après la rencontre.
La main, elle est vraiment claire. Quand le ballon il part vraiment vers le but, quand le ballon est vraiment, il va faire la dernière passe, mais vraiment qu'il y a une intention. Et Morgan, il a essayé quand même d'enlever son bras. C'est comme le mien contre Brest, c'est le même. Et comment on va faire sinon, les gars? On peut pas, c'est du réflexe. Et bon.
Comment on va faire alors, les gars? C'est vrai qu'il a raison de s'interroger, Dante. On parlait de deux situations litigieuses avec Vincent tout à l'heure. On peut ajouter aussi, sans parler de main, le contact entre Kel Boudache et Hans Atebor dans la surface. C'était à Lyon. Il y a également celui entre Kebal et Kevin Carlos sur la pelouse du Paris FC. Ça fait beaucoup pour l'OGC Nice. C'est l'entraîneur, justement, du gym. On en a parlé en conférence de presse. On écoute tout de suite Claude Puel.
Vous savez que... On est à mission, entre guillemets, et que les aléas de match, les événements qui peuvent arriver ne nous épargnent pas. Au moins, on est vacciné. Je dirais que on sait que ça viendra que de nous et on s'emploie et en tout cas, on lâche pas. Je pense qu'on le montre, à part le match de Rennes qui a été un hommage pour nous. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on voit une équipe démobilisée ou baisser la tête ou lâcher. Et ça, c'est important. Et ça le sera jusqu'au bout.
Dernier mot sur l'arbitrage, Nico. Est-ce que vous trouvez cette année que l'OGC Nice est particulièrement lésé par les arbitres du championnat de France?
Ah bah, je pense que les faits le prouvent. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. Je n'ai pas envie de croire au complot, mais les faits, ils sont clairs. Je crois que même il y a un classement qui est sorti. On est l'équipe la plus handicapée par l'arbitrage. Donc à un moment donné, c'est factuel. Il y a des décisions qui sont incompréhensibles. Tu les as citées juste avant, on en a parlé aussi. Donc c'est tout d'une saison catastrophe et c'est ce qui m'inquiète le plus.
Et on fera un point arbitrage dans deux semaines, après la trêve internationale. on fera ces 10 premières minutes d'émission peut-être sur les décisions de l'arbitre. En tout cas, on ne le souhaite pas, évidemment. Clôture cette page homme en main noire. En attendant, on va aussi débriefer ce qui s'est passé en première mi-temps. Arthur, avec ses 40 premières minutes plutôt sérieuses, plutôt appliquées côté OGC Nice. On le rappelle, face au Paris Saint-Germain, prétendant à sa propre succession en Ligue des Champions.
Oui, on a beaucoup parlé d'arbitrage. C'est pas ça qui détermine tout le résultat du match, hein, même s'il intervient à un moment, cette décision intervient à un moment crucial qui défavorise les Aiglons en rentrant avec un but de retard. Mais les 40 premières minutes ont plutôt été intéressantes. C'est le schéma qu'on pouvait attendre avec les Parisiens qui avaient le ballon et les Aiglons plutôt en place. Mais moi, c'est plutôt la seconde période que j'ai un peu moins appréciée. On pourra peut-être en parler ensuite, mais j'attendais un peu plus de révolte, d'intensité et d'envie dans le jeu pour au moins essayer de mettre en difficulté le PSG. Au final, le score, il est lourd. Il fait mal encore une fois à l'Alliance.
Mais Vincent, est-ce qu'on peut regretter cette quasi-résignation où le gym, bah, finalement, si on se remet dans le match, il n'y a pas les armes pour faire mieux sur cette seconde mi-temps?
Moi, je pense que pour gagner contre cette équipe du PSG à ce moment-là de la saison, il faut être à 100% et avoir aussi l'effet de jeu en sa faveur. Samedi soir, c'était l'effet de jeu complètement en sa défaveur. Et du coup, même s'ils ont fait une très bonne première mi-temps, ils étaient vraiment très bien en place. Et même avec le ballon, j'ai trouvé qu'ils posaient des problèmes aussi à cette équipe de Paris. Je pense qu'en plus, le retour de vestiaire, reprendre un but, et puis l'exclusion de Youssouf n'a pas aidé. Mais moi, au contraire, je n'ai pas trouvé non plus qu'ils avaient balancé cette deuxième mi-temps. J'ai pas vu d'attitude comme j'ai pu voir, par exemple, contre Rennes, ou même malheureusement sur le quatrième but. Je vois Jonathan Clauss qui fait une course, c'est la 88e, je crois, ou enfin quelque chose comme ça, qui fait une course de 40 mètres en plein sprint, alors qu'il y a 3-0, que le match est plié. Finalement, il n'a pas de chance, c'est un petit coup de billard. Mais je n'ai pas trouvé que l'équipe avait lâché par rapport à ce que j'ai pu voir contre Rennes. Et je rebondirai sur le fait que j'ai vu une équipe vraiment bien en place. Et je pense que ce match-là peut servir pour les prochaines échéances, parce que le gym joue contre des grosses équipes.
Vous avez la même lecture que Vincent sur cette deuxième mi-temps?
Ouais, complètement. Je pense que l'exclusion change beaucoup de choses et tu étais déjà en souffrance. Évidemment qu'un de moins contre ce PSG-là, c'est quasi impossible de ressortir ou même de rivaliser sur la durée. Il y a quand même un point positif, je pense, c'est que Claude Puel a trouvé son schéma avec ce milieu à 3, ce bloc défensif, je dirais, renforcé et peut-être deux flèches devant avec le retour de Mohamed Ali Chou, je pense, à mon
sens,
qui va faire beaucoup de bien.
Regardez la composition, justement, elle est à l'écran. Je vais reprendre juste la main pour préciser un petit peu ce qu'a voulu faire Claude Puel, avec notamment la surprise du chef, c'était la titularisation de Youssouf Ndaye Chimier, qui était de retour titulaire depuis avril 2025, une lourde blessure au croisé. Il jouait dans ce rôle préférentiel, accompagné, vous le voyez, d'Hicham Boudaoui et Morgan Sanson, pas de Charles Van Hout. Comparé à Angers, le duo offensif lui aussi a changé. Eli Wahi et Sofiane Diop ont pris les rênes de l'attaque au détriment de Kevin Carlos et de Kyle Bouda jusque-là. Tout va bien. C'était un pari, Nico, de faire débuter Youssouf sur ce genre de confrontation. Pari, au vu aussi du carton rouge, plutôt perdu.
Bah, moi, ce que je regrette, entre guillemets, parce qu'après, on n'est pas dans le quotidien des séances, c'est je trouvais la formule très, très intéressante contre Angers. On avait éteint cette équipe qui propose du beau football cette saison. Et je trouvais que ce trio avait très bien fonctionné avec Hicham Boudaoui dans une position préférentielle qui couvre beaucoup d'espace, qui est également capable sous pression de jouer très juste. Et devant lui, deux joueurs avec un gros volume de jeu que sont Morgan Sanson et Charles Van Hout. Je trouve que ça avait très très bien fonctionné. Et contre Paris, une équipe où tu vas devoir beaucoup courir et couvrir beaucoup d'espace, je trouvais que ça aurait été bien d'avoir de la continuité et de ne pas envoyer un Youssouf qui est assez logiquement en cours de rythme. Après, Youssouf n'a pas été catastrophique non plus, hein, mais je voilà, c'était un pari de Claude Puel et je trouve qu'il a été moyennement réussi.
On reviendra sur la performance individuelle de certains dans les top flops dans un instant. Mais avant, on va s'intéresser au calendrier de l'OGC Nice au moins sur les 5 prochains matchs. Le calendrier du mois d'avril qui s'annonce extrêmement relevé avec 3 déplacements ultra périlleux en Ligue 1 à Strasbourg, Marseille et Lille. Arthur, le niveau de l'OGC Nice contre les gros de notre championnat, est-ce qu'il vous inquiète un petit peu dans ce sprint final?
Ah, oui, de ce point de vue-là, c'est très inquiétant. Quand on voit Auxerre qui est capable de gagner 3-0 contre Brest sans prendre de but, ce week-end, voilà, j'ai du mal à voir Nice faire un clean sheet déjà. Bon, ça, c'est arrivé, hein, il n'y a pas longtemps encore, mais contre les gros, souvent, l'OGC Nice prend l'eau. Et ça se vérifie souvent contre Rennes, contre Marseille, contre le PSG. Et là, on a vu le calendrier, il n'y a que des grosses écuries qui sont capables de surperformer, de performer offensivement. Donc, il va falloir très vite trouver pendant cette trêve le bon schéma défensif. Et on sait que ce qui fait la différence pour une équipe dans la course pour le maintien, c'est aussi la capacité à être solide défensivement.
Et surtout que la JOSA, on l'a vu brièvement dans le calendrier des Bourguignons, est plus qu'à 5 points et à plus 6 aussi de différence de but par rapport au JIM, mais va affronter des adversaires plutôt à sa portée, notamment sur ces deux prochaines rencontres. Le Havre à l'extérieur et Nantes à domicile, avant d'affronter Angers et Nice à l'antépénultième journée et l'avant-dernière journée. Attention aux Bourguignons et... Le match, Vincent, face au Havre, que va devoir jouer l'OGC Nice, il va sans doute être capital face à là aussi un adversaire direct. Comment on explique ce, ce blocage quand on est joueur de ne pas gagner à l'Allianz Riviera depuis le 29 octobre. Il y a aussi, j'imagine, un côté psychologique. On se rappelle aussi de cette égalisation lorientaise à la dernière seconde.
Oui, mais je ne sais pas comment l'expliquer. C'est vrai qu'en plus, les supporters étaient complètement derrière l'équipe. Ce qu'ils ont réalisé sur ce match, notamment sur ce match, était vraiment incroyable. J'ai encore des frissons rien que d'y penser. Mais c'est vrai qu'en général, c'est toujours mieux de gagner à domicile. Je ne sais pas si c'est un blocage psychologique. C'est vrai que c'est cette égalisation dans les dernières secondes contre Lorient, c'est vraiment très rageant parce qu'ils avaient fait une très belle partie cet après-midi-là. Mais moi, j'ai quand même bon espoir en l'équipe. Et de toute façon, on parle de ce match contre le qui arrive dans le calendrier, qui est crucial, mais je pars du principe que tous les matchs sont cruciaux et tous les matchs peuvent être gagnés. S'il y a les bons éléments sont mis et que on n'a pas forcément de faits contraires qui nous embêtent, je pense que l'équipe est capable de gagner.
Vincent, vous avez joué deux fois le maintien dans votre carrière à Cologne et à Ostende, donc en Allemagne et en Belgique.
Je l'ai joué partout, sauf ici.
Ouais, exactement. Comment ça se vit à l'intérieur d'un groupe quand on doit tous se souder pour arriver à un objectif? J'imagine que c'est pas simple non plus quand il faut affronter cette peur de ne pas descendre.
Oui, c'est sûr que on joue beaucoup plus relâché quand on joue les places hautes du classement. Maintenant, c'est aussi super intéressant de voir les vraies personnalités des gens, parce que quand tout va bien, ben c'est facile de bien jouer. Et quand justement il y a toujours quelque chose qui vient en travers de notre route, c'est là où on voit qui se relève. Et je trouve que justement cette équipe niçoise n'a pas été aidée. Il y a eu aussi, voilà, toute la saison est compliquée, mais qu'elles sont encore aujourd'hui et capables de produire ce qu'ils ont fait en première mi-temps et puis même en deuxième mi-temps, où je les ai vus faire des efforts alors que forcément c'est Paris. Je trouve qu'elle a beaucoup de mérite et j'en reviens de toute façon à l'ADN du coach Puel qui dans sa mentalité c'est de rien lâcher jusqu'au bout.
Il y a de l'espoir en tout cas pour vous, Vincent. Nous, on va revenir encore sur ce match face au Paris Saint-Germain dans les top flops. C'est dans la deuxième partie de Coupe Aiglon qui arrive tout de suite. De retour sur le plateau de Coupe Aiglon pour débriefer cette défaite 4-0 à l'Allianz Riviera face au Paris Saint-Germain. Il est temps de distribuer les bons et les mauvais points de cette rencontre tout de suite dans les top flops. Allez Nico, on commence par ton top et ton flop. D'un côté Jonathan Clauss, de l'autre Sofia Diop.
Ouais, Jonathan Clauss, parce que déjà dans l'attitude, je le trouve irréprochable, comme tu l'as dit précédemment, depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Je trouve que, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est l'un des rares joueurs capables d'atteindre le très haut niveau dans cette équipe. Il a une qualité de pied, il pourrait pour moi facilement jouer dans ce Paris Saint-Germain-là, tellement il est à l'aise balle au pied. Et puis voilà, je trouve qu'il prend encore plus d'importance dans le groupe, il a tendance à tirer tout le monde derrière lui aussi. Et je pense que ça va être un élément vraiment important pour dans le maintien.
Sofiane Diop, assez décevant, mais comme depuis quelques matchs maintenant.
Ouais, dans un rôle compliqué quand même, parce que bah, évidemment que dans cette configuration de match-là, c'est compliqué d'être très juste techniquement sous une grosse pression parisienne. Moi, je pense qu'il a les qualités techniques, en tout cas pour faire mieux. Ça n'a pas été le cas contre Paris, c'est dommage, parce que sur certaines situations, on aurait pu être plus dangereux si on avait été un peu plus juste techniquement. Après, il n'a pas triché non plus, il a beaucoup couru. Peut-être que justement, il lui a manqué cette petite lucidité pour être plus juste devant. Mais c'est vrai que ça fait quelques semaines qu'il est moins bien, il nous a habitué à mieux cette saison, mais ça reste un élément important.
Le flop de ce soir aussi, pour vous, ouais, Arthur, c'est Sofiane Diop, ouais, d'ailleurs.
Un flop partagé de mon côté. C'est vrai qu'il avait une très bonne période, du coup, lorsque l'OGC Nice avait enchaîné les victoires, on se souvient, contre Lille, etc., contre les gros. Et c'est lui qui portait un petit peu l'équipe, et je ne sais pas aussi si sa non-sélection à la CAN l'a peut-être impacté aussi psychologiquement pour redémarrer l'année civile, mais c'est vrai que depuis le début de l'année 2026, je le trouve moins impactant. C'est par lui que doit venir aussi la décision, la finesse technique et la justesse. On sait qu'il en manque beaucoup aussi offensivement, donc un peu décevant.
On se disait, Vincent, sans ses pépins physiques, il pouvait justement faire une saison pleine. On s'attendait à un grand Sofiane Diop. C'est vrai qu'il marque un petit peu le pas depuis quelques semaines, ballotté aussi dans des positions différentes par Claude Puel.
Oui, je reviens complètement à ce qui a été dit ici. C'est vrai que c'est l'un des éléments vraiment forts de l'animation offensive niçoise depuis le début de la saison. Et je pense qu'il nous a habitués tellement mieux qu'on est un petit peu peut-être dur avec lui et sévère avec lui. Mais c'est vrai que voilà, il a manqué une petite truc qui fait d'habitude, petite magie qui fait d'habitude ou qui la vision qui peut avoir. Mais encore, et je reviens sur ce que tu viens de dire, je l'ai vu aussi perdre des ballons, mais faire 20 mètres en course à haute intensité, pardon, pour récupérer ballon et se reprojeter vers l'avant. Donc voilà, mais après c'est vrai que c'est compliqué aussi quand ton équipe joue le maintien, que t'es un joueur à sensibilité technique, donc il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. J'y pense parce que son match à Lyon était génial.
Il est toujours impliqué, c'est vrai, Sofiane Diop, malgré tout. Il nous reste deux tops, le top de Vincent, le top d'Arthur. On va commencer par vous, mon cher Arthur, prends avec.
Alors c'est un peu le paradoxe, du coup, je vais choisir le gardien, même s'il prend 4 buts, mais j'ai trouvé qu'il a retardé quand même l'échéance, qu'il a fait 3 parades, notamment avant le pénalty, qui permettent au LGC Nice d'être en position de faire un résultat. Il y a eu ce débat avec Dupé, moi je pense que voilà, il faut continuer avec Diouf, qui est plutôt en forme, même si ça ne s'est pas matérialisé samedi soir.
Le choix de la stabilité de Jonathan Clauss avec Binbar, qui fait le job face à Paris.
Maintenant. Et j'ai aussi aimé la prestation de Melvin Barr. Les deux, ils sortaient bien sur le temps de passe, ils mettaient beaucoup d'agressivité sur le porteur, surtout en première mi-temps. Et puis après, avec le ballon, j'ai trouvé que c'était aussi très cohérent.
Messieurs, il est 19h23, on rentre dans le temps additionnel de cette émission. Vous le savez, c'est l'heure du focus. On y va. Retour dans le focus sur les déclarations en milieu de semaine de Florian Maurice à nos confrères de l'équipe. Le directeur sportif de l'OGC Nice en poste depuis 2024 a vendangé plusieurs transferts à l'image de Kevin Carlos, Youssoufa Moukoko, Isaac Janssen, Djoumaba ou encore Thiago Gouveia. Avant de vous proposer certains passages de cet entretien où il tente de défendre son bilan, je vais vous poser la question du focus à tous les trois. Directement, sans filtre, hein, vous connaissez cette séquence du focus. Florian Maurice, est-il le fautif numéro 1 de la saison cauchemar du gym? Oui ou non? Et après, on développe. Nico.
Oui ou non? Bah non.
Plutôt non. Arthur.
Mais c'est pareil, c'est compliqué, donc on va dire non.
Plutôt non.
Moi, je pense que c'est forcément pas un responsable. C'est sûr qu'il a un poste à responsabilité et donc forcément qu'il a une part de responsabilité sur la saison niçoise, mais il y a tellement d'autres facteurs qui rentrent en jeu que c'est dur de dire lui c'est le responsable numéro 1.
Oui, parce que les torts effectivement peuvent partager. On sait qu'il a pris beaucoup de collaborations avec Francaise, notamment Jamed, à Charles Van Hout également. Il y avait aussi le fils de Francaise, Maël, par la cellule de recrutement de l'OGC Nice qui lui tort partagé. Nico, finalement, celui qui doit prendre la responsabilité de tout ça, c'est le responsable de la direction sportive.
Et voilà, il est directeur sportif, donc évidemment que nous, en tant qu'élément extérieur, si on doit taper sur quelqu'un, on va taper sur lui. Mais après, si on prend un peu de recul et qu'on analyse la situation, je pense que les conditions de travail cet été, elles étaient très compliquées, entre la situation financière du football français, entre un actionnaire qui est totalement absent, entre un président qui prenait apparemment beaucoup de place, un entraîneur qui avait certaines envies et que des fois on n'est pas trop d'accord. Je pense que ce qu'il dit, Florian Maurice, il défend son bilan tant bien que mal. Il y a quelques passages où je suis quand même un petit peu en désaccord avec lui, parce que quand il nous parle de Kevin Carlos, qu'il nous parle de ses stats à balle, c'est son rôle aussi de prendre en compte qu'il évolue dans une équipe qui est archi dominante dans son championnat, donc évidemment il va avoir beaucoup plus de situations et il fallait aussi se anticiper
le niveau du championnat, le niveau,
et puis anticiper surtout quel rôle allait avoir Kevin Carlos à Nice, et est-ce que Nice allait être une équipe aussi dominante que Bâle l'est en Suisse, et c'est pas le cas. Donc encore une fois, la data c'est bien, c'est super, c'est un super outil, mais rien ne vaut l'œil pur, Et je pense que sur pas mal de joueurs, il s'est trompé cet été, mais c'est pas le seul fautif.
On sait qu'il visait Madi Camara de Brest et Lassine Sinayoko d'Auxerre. On va voir d'ailleurs le tableau récapitulatif du mercato du gym cette saison. Arthur, choix trop onéreux selon l'état-major de OGC Nice. Est-ce que l'échec sportif du gym, il est dû aussi à ses problèmes financiers? Il faut quand même rappeler que ça l'a pas empêché de mettre 6 millions d'euros sur Kevin Carlos et 10 sur Johnson aussi.
Non, mais avoir des... on peut très bien avoir de l'argent et faire un mauvais recrutement, hein, ça garantit pas tout. Mettre 10 millions sur Johnson, voilà, je suis pas sûr, qu'il ne vaut pas ces 10 millions là. 6 millions sur Carlos, c'est pareil. Après, il faut réussir à être malin. Moi, je peux comparer à ce qu'a fait l'Olympique Lyonnais cette saison. Hein. Ils ont manque d'argent. Lens aussi.
Qui a dépensé comme Nice.
Manque d'argent, bah, ça entraîne aussi, ça nous pousse à essayer de trouver des meilleures idées. Parfois peut-être un peu plus original dans certains championnats qui sont moins médiatisés. Donc forcément que oui, il a une grosse part de responsabilité, mais encore une fois, c'est un travail collectif et il le dit que toutes les décisions ont été prises avec Francaise, donc on peut le croire aussi là-dessus. Forcément, il y a un dialogue. Moi, juste, j'ajouterais une petite note positive, c'est que ils font quand même venir Wally à l'intersaison. Peut-être que c'est aussi Wally qui va maintenir l'OGC Nice. Bon, bah au moins, il s'est peut-être rattrapé sur ce point-là. Il a raté sur Kevin Carlos. On ramène Eli Wally, peut-être que ça va sauver le club et déjà, on pourra repartir. Les meilleurs auspices la saison prochaine.
Ce qu'on devine aussi dans cette interview, c'est qu'il n'est pas vraiment parti pour rester. Florian Maury, je cite, la seule idée que j'ai de mon avenir, c'est que le club reste en Ligue 1. Je suis focus sur les 3 mois qui arrivent, après on verra. Vincent, il parle à très court terme, pas sûr que lui ait envie de continuer et que Ineos, s'ils sont toujours aux commandes, veulent aussi poursuivre avec Florian Maury.
Oui, après je pense que c'est une bonne réponse de sa part. Je pense que c'est le plus important, c'est que l'équipe se maintienne et que son cas personnel, il passe forcément au second plan pour lui et c'est tout à son honneur. Je suis pas assez bien informé pour savoir si il est parti pour rester ou pas. Je pense que pour le moment, c'est vraiment ça la priorité. Et concernant son bilan, je voulais juste dire aussi qu'il y a tellement de choses qui rentrent en compte dans aussi l'adaptation des joueurs. Peut-être que le joueur était un crack et que finalement il peut pas s'adapter vraiment dans ce système de jeu ou dans toute l'atmosphère de l'équipe. Donc encore une fois, c'est compliqué de dire qu'il est responsable à 100%. Quoi.
Merci beaucoup messieurs d'avoir traité cette question avec moi ce soir. Avant de se quitter, on va jeter un coup d'œil sur le classement de cette Ligue 1 avec ce mano à mano entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. Avantage Paris Saint-Germain d'un petit point, podium complété par l'Olympique de Marseille à 49 points, mais talonné par Lyon, Lille et Monaco qui se tiennent en un point. On retrouve l'OGC Nice incrusté, vous allez voir, dans la deuxième partie de tableau à la 15e place avec 27 unités. 5 de plus désormais que le barragiste Auxerrois, Nantes et Metz ferment la marche. Pour terminer, petite communication du club OGC Nice, organise la 9e édition du Forum de l'Emploi ce jeudi de 9h30 à 16h à l'Alliance Riviera. Plus de 1000 postes sont à pourvoir, 70 entreprises présentes et des milliers de candidats attendus. Comme ça, vous savez tout, ça se passe jeudi. Voilà pour ce complément. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain à la même heure à 19h. D'ici là, passez une très bonne semaine.